Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est conflit, faut-il vraiment tendre l'autre joue? Ça, c'est le thème de notre méditation. Hein, conflit, faut-il vraiment tendre l'autre joue? Et alors, vous connaissez le texte les uns les autres, hein, je vous le relis. Hein, il est en Matthieu 5, 38 à 47. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas autant? Et si vous saluez uniquement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà, c'est de cette partie-là qu'est tirée l'expression hein, « tendre l'autre joue hein, » si on vous donne la joue. Et donc voilà, c'est la joue droite et puis du coup vous tendrez l'autre joue. La première chose qu'il ne faudrait pas comprendre, en tout cas une mauvaise manière d'interpréter cette parole de Dieu, c'est matériellement, c'est de façon doloriste de dire voilà, de se faire mal, et de fait Jésus lui-même, on voit bien, lorsqu'il est frappé au moment du procès, de son procès, au moment de la passion, hein, il ne dit pas, ben non, frappez-moi encore sur cette partie-là, les jambes sont encore intactes, allez-y, le dos, n'hésitez pas, etc. Donc, ce n'est pas évidemment de façon matérielle qu'il faut de recevoir des coups pour recevoir des coups. La preuve, c'est qu'il dit au grand prêtre, au serviteur du grand prêtre qui le frappe, il dit, pourquoi me frappes-tu? Donc, l'intéressant est ailleurs, quoi. La question de l'autre joue est ailleurs, puis non seulement de l'autre joue, mais aussi de tout ce qui consiste, en fait c'est un des sommets de l'évangile ce texte, c'est un des sommets de l'évangile. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, alors je ne veux pas qu'on fasse l'essai entre nous, mais si vous êtes droitier et que vous frappez quelqu'un sur la joue droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous le frappez, parce que si vous faites comme ça, vous le frappez sur la joue gauche. Mais frapper sur la joue droite, ça, du revers de la main. Or, donc ça veut dire déjà une détermination plus importante, à tel point que dans la loi d'Israël, le fait de frapper quelqu'un a été puni par une amende, mais le fait de frapper quelqu'un du revers de la main, comme c'est le cas, la joue droite, eh bien, était puni du double de l'amende. Parce que c'était vu comme une offense supplémentaire, précisément parce que la personne avait pris, je veux dire, plus... C'est pas un geste naturel. Il y avait une détermination qui était supérieure, qui était plus grande. Donc, frapper du geste du revers de la main, ça voulait dire aussi être une plus grande détermination dans la violence. Hein, et donc... du coup, il y avait une amende qui était supplémentaire et qui était plus importante. Mais justement, le cœur, j'allais dire, de cette affaire, c'est la justice. Au fond, c'est la manière d'exercer la justice. Qu'est-ce qui est juste? Parce que vous verriez dans la suite du texte, ben, si quelqu'un te demande de faire un mille, fais-en deux. Si quelqu'un te demande... ta tunique, donne-lui aussi ton manteau, etc., etc. Donc, le Seigneur nous fait rentrer dans une autre manière d'aborder des conflits. Hein, parce que là, c'est que des cas de conflits. Les conflits, petite note de bas de page, les conflits font partie de notre vie. Les conflits, c'est quelque chose qui existe. Il y a des personnes, je sais, j'en ai fait partie pendant pas mal de temps, des personnes qui ont peur du conflit. J'ai appris personnellement, peut-être au détriment des frères, vous me direz, mais j'ai appris personnellement à entrer en conflit dans la vie religieuse. Alors les pauvres frères auraient peut-être préféré autre chose, mais vous ne pouvez pas tenir dans une vie religieuse si vous refusez le conflit. Vous ne pouvez pas tenir dans une vie en société si vous refusez le conflit. Et ça, je crois que c'est un premier point, c'est que de dire là c'est une situation conflictuelle à laquelle Jésus fait allusion, où est-ce qu'on en est de l'accueil du conflit ? Conflire, c'est au fond, est conflictuel parce que je dis non à quelque chose, je m'oppose à quelque chose ou à quelqu'un. Et donc, du coup, cette opposition va engendrer une tension. Mais dire non, c'est dire je. Des personnes ultra consensuelles qui disent toujours oui à tout, c'est des personnes qui, qui ont peu de conviction, c'est peu de détermination. Et ça peut être intéressant. Moi, j'ai reçu une éducation comme ça, et peut-être vous aussi, en partie. Moi, c'était l'éducation pas de vague. Voilà, surtout pas de vague, non, surtout ça non, il ne faut pas en parler, surtout ça, la religion de la poussière sous le tapis, vous voyez ce que je veux dire, ça, non, ça avec ton frère, avec ta sœur, avec aussi, bon, voilà, surtout, ça veut dire quelqu'un, les parents ils donnent ce qu'ils peuvent donner, ça veut dire quelqu'un qui est archi angoissé en fait. C'est important de dire que nous-mêmes, comme chrétiens, parfois nous sommes à l'origine de conflits dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir, dans notre manière de nous positionner. Hein, on voit bien avec toute la manif pour tous, etc., il y a des gens qui sont rentrés en conflit, parce qu'ils étaient même, je crois, membres de l'Église catholique, baptisés, ils n'étaient pas d'accord. Du coup, on rentre en conflit. Le fait de rentrer en conflit, c'est aussi dire je tiens à quelque chose. Hein, je tiens à quelque chose. Il y a quelque chose. Est-ce qu'on est encore capable de s'indigner ? Est-ce qu'on est encore capable de nous mettre dans une attitude de comme Jésus au temple qui renverse la table des changeurs et disperse les vendeurs de colombes, etc., etc. Il crée un conflit. Ne faites pas demain la maison de mon père une maison de trafic. Est-ce qu'on est encore capable de s'indigner ? Est-ce qu'on est encore capable de... Et alors, c'est vrai que dans la vie professionnelle, surtout quand on est jeune professionnel, comme c'est votre cas, c'est peut-être plus difficile, parce que si on s'indigne et qu'on provoque un conflit, c'est peut-être bien aussi de prévoir un plan B au cas où votre manager avec qui vous êtes en conflit, vous dites, écoutez, monsieur, madame, la porte, c'est par ici, quoi. Donc, ou tout simplement vous faire subir une forme d'isolement et de vous mettre complètement sur le banc, sur la touche. Hein. Donc, ça, c'est aussi une manière de mettre les gens à la porte. Hein. Mais voilà, je crois que le monde professionnel est un monde de conflits. Et ça, n'ayez pas... de ce côté-là, ne soyez pas surpris. Il y a des personnes qui en sont comme surprises, qui disent, voilà, c'est... ne cherchons pas à plaire à tout prix. L'Évangile, c'est pas chercher à plaire à tout prix. L'Évangile, c'est pas être gentil, gentil. C'est pas ça, l'Évangile. L'Évangile, à la manière de Jésus, et on voit bien comment lui-même a créé le conflit, dans la Bible, il y a plein de conflits, quand vous regardez, déjà Caïn et Abel, ensuite l'homme et la femme après la péché originelle, ensuite Sarah, j'ai fait tout un truc là, je peux vous en citer, mais je vais pas vous endormir avec ça, mais Sarah et Agar, vous vous rappelez de Sarah et Agar ? Bien sûr, vous en rappelez Sarah, la femme d'Abraham qui ne pouvait pas avoir d'enfant, etc. Et du coup, il demande à sa servante, à Agar, va ta servante pour que tu puisses avoir une descendance, etc. Ben à la fin, même si au début elle a dit ça, à la fin elle est jalouse, évidemment, parce qu'elle avait une fille, elle a eu un enfant, alors qu'elle ne pourra pas avoir d'autres. Voilà. Ensuite, Jacob et Ésaü, etc. Bon, vous avez toute la Bible entre les guerres, qui sont des conflits, entre les conflits personnels, les conflits entre les nations, entre Israël, la naissance même d'Israël, du peuple, a créé une sorte de conflit tout autour. Et malheureusement, ce n'est que trop d'actualité. Donc, le fait de se positionner, forcément va aussi positionner les autres. Mais le fait de ne pas se positionner, c'est, croyez aussi que c'est une manière d'agir, c'est aussi un choix. Le fait d'être consensuel à tout prix, c'est aussi un choix. Donc, n'ayez pas peur de... les conflits, ça, je peux très bien... Alors, Ensuite, il y a des lieux et il y a des manières de dire. Alors, il y a des lieux pour dire des... C'est important qu'il y ait un lieu pour dire le conflit. Par exemple, je vous donne l'exemple de notre vie communautaire. Tous les lundis matins, on se réveille, bon, ça, on n'est pas les seuls, mais tous les lundis matins, on a réunion de communauté. Et dans la réunion de communauté, on commence par une prière, sinon il y aurait du sang sur les murs. Du coup, dans la réunion de communauté, on dit notre agenda. Et à un moment donné, on dit, est-ce qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans notre manière d'agir. Alors, on essaye, autant que faire se peut, de ne pas désigner un frère en particulier, pour un peu, parce que c'est vrai que ça pourrait être tendu, pour ne pas être créé de trop de tensions, etc. Mais, à un moment donné, on dit, voilà, il y a telle chose que je n'aime pas. C'est telle chose, ou telle chose qui me coûte. Sauf que quand on a, qu'ai-je dire, quelque chose de désagréable à quelqu'un, il faut toujours parler à la première personne. Qu'est-ce qui me coûte ? Cette manière d'agir me coûte. Par exemple, vous avez dans le monde professionnel un lieu qui est l'entretien annuel d'évaluation. C'est un lieu. Voilà, c'est un temps, un lieu qui vous est donné dans l'année. Peut-être dans d'autres entreprises, il y a d'autres aussi lieux qui sont donnés dans l'année pour pouvoir dire des choses. Mais c'est important déjà de le préparer, cet entretien. C'est pas facile, parce que du coup, c'est avec votre manager, peut-être avec d'autres, ensuite, on fait ce qu'on appelle un 360, etc. Bon, donc, du coup, c'est essayer de demander aux autres, etc. Bon, ça demande aussi tout un regard des autres sur soi-même, qui est pas forcément facile à accueillir. Mais c'est intéressant, je trouve que c'est un lieu qui est intéressant, je trouve ça très bien. Parce que le pire, c'est quand il n'y a pas de lieu pour dire des choses. Vous savez, le conflit le plus violent dans la Bible, c'est Caïn et Abel, il n'y a pas une parole d'explication entre les deux. Il n'y a rien. C'est du non-dit. C'est du non-dit qui se termine finalement dans un bel sang. Et pour nous, en tout cas, c'est important comme chrétiens que nous ayons des lieux pour dire les choses. Dans l'Église, dans les communautés religieuses, on peut ne pas être d'accord. Dans une paroisse, on peut ne pas être d'accord. Mais du coup, voilà. Mais qu'on ait un lieu dans le monde professionnel, on peut ne pas être d'accord, mais c'est important d'avoir un lieu pour dire... Mais aussi la manière dont on dit la chose. Donc la manière dont on dit la chose, et aussi l'Évangile a quelque chose à dire là-dessus. Hein, ce qu'on appelle la correction fraternelle. Hein, de même dans l'Évangile, Jésus dit, ben, si tu vois ton frère qui est dans le péché, etc., va lui dire, ben, écoute, convertis-toi, s'il n'écoute personne, ben, appelle une deuxième personne, s'il appelle l'Église, et finalement, ben, voilà, s'il ne veut pas changer de conduite, ben, voilà, il est exclu de la communauté, parce qu'il s'exclut lui-même de la communauté. Mais à un moment donné, il y a une progressivité, au fond, dans la manière d'agir. Donc, voilà, donc la question du conflit, œil pour œil, dent pour dent. Ce passage, donc œil pour œil, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent, hein, etc. C'est ce qu'on appelait du temps d'Israël, c'est la justice punitive. Au fond, qui était presque devenue une vengeance. Tu me blesses, eh bien je te blesse. Tu me coupes la main, je te coupe la main. Tu me œil pour œil, dent pour dent. Et c'était déjà, j'allais dire, un progrès par rapport à ce qui se faisait avant. Il faut bien voir que œil pour œil, dent pour dent, nous on le voit comme une justice très dure. Mais c'est déjà d'établir une certaine équité. Aujourd'hui, la manière d'exercer la justice, voilà, la pénitence qui est donnée face à un crime ou un délit, c'est soit une amende, soit une peine d'emprisonnement, parce que bon, mais on essaie de pas, s'il y a un meurtre, on ne va pas tuer l'autre personne, quoique dans certains pays, la peine de mort est encore d'actualité. Hein, et part de ce principe-là, d'équité, tu as pris la vie de quelqu'un, on te va prendre ta vie. Mais c'était vécu de telle manière en Israël que c'était au fond une loi de vengeance. Et ça, c'est important de resituer comment, dans quel cadre Jésus parlait. C'était une manière de se venger. Tu m'as fait ceci, je vais te faire exactement la même chose. À aucun moment, il y avait la notion de pardon. À aucun moment, il y avait la notion de pardon. Et donc, on voit bien dans le Lévitique, justement, où on voit cette la loi de Moïse, hein, œil pour œil, dent pour dent. Hein, dans toute société respecte ses membres. Vous avez rendu quelqu'un aveugle, alors vous devrez également perdre la vue. Vous avez coupé la main d'une personne, alors on devra vous couper la main. Si vous tuez quelqu'un, alors vous devrez payer par votre propre vie. La justice repose là sur uniquement un juste châtiment qui est l'égal de ce qu'on a fait subir à l'autre. Hein. Voilà. Donc ça, c'était un principe de justice, bon, voilà, qui était peut-être déjà une première justice. Dans l'Ancien Testament, qui était déjà une meilleure par rapport à, voilà, si tu me coupes la main, je te tue, par exemple. Voilà, du coup, là, il n'y a plus du tout de proportion. Hein. Et c'est important aussi, nous, là, on parle de choses physiques, hein, c'est facile, mais la question de la réparation, par exemple, c'est que c'est très difficile, la question de la réparation. Quand on a commis une quand on a offensé quelqu'un, quand on a fait du mal à quelqu'un, comment réparer? C'est difficile. Ou nous-mêmes, quand on a été offensé, quand on a été blessé, quelle réparation? Quelle réparation avoir? Vous savez, par exemple, quand vous vous confessez, si aucun d'entre vous se confesse de temps à autre, et puis vous savez, l'approche des fêtes pascales est une opportunité magnifique pour avoir recours au sacrement de la réconciliation, ben, comme prêtre, vous avez la tâche de donner une pénitence. Donc, la personne, on appelle ça le pénitent, justement, vient, reçoit le sacrement de pénitence, et puis, il dit, le prêtre lui dit, voilà, quelle est la pénitence? C'est pas facile de donner une pénitence. C'est pas facile, parce que pourquoi c'est pas facile? Parce qu'il faut que je sois intelligent. Comme pénitence, je ne dis pas, bon, ben, on dit, ben, vous priez, dites-vous, je vous salue Marie, bon, du coup, on se débarrasse, c'est les candidats suivants, puis, ben, c'est vrai, bon. Mais ça, c'est pas, bon, c'est, on ne peut pas être contre les je vous salue Marie, évidemment, les plutôt pour, mais quelle est la, moi, j'ai, en tout cas, j'ai pas toujours l'inspiration, mais quand quelqu'un se confesse, j'ai à cœur de dire, mais quelle est la pénitence qui va le faire grandir? Parce que la pénitence, vous le savez, a deux fonctions, réparer et guérir. Réparer et guérir. Et c'est bien dommage que dans nos sociétés, on a trouvé les travaux d'intérêt généraux, etc., qui c'est assez intéressant, je trouve, parce que c'est une autre manière d'avoir une compensation par rapport à un dommage fait à la société. Hein, donc ça, justement, c'est chercher à essayer de creuser la tête. Donc justement, c'est le fait de réparer. L'idée de cette justice, c'est de réparer. Comment est-ce que je vais réparer? Hein, je vais réparer le et moi qui ai été offensé, quelle réparation je vais demander à l'autre qui m'a offensé, hein, donc, et au fond, présenter l'autre joue à son agresseur, ça nous introduit dans la pensée de Jésus. Présenter l'autre joue, c'est présenter un autre visage. On t'a blessé sur ce visage-là, présente un autre visage face au mal. Présente face à l'autre une autre manière de réagir, qui ne soit pas dans l'immédiateté de la vengeance. Parce que, on voit bien, il y a des tas de violences en nous, il y a beaucoup de violences. Parce que si on estime avoir été victime d'une injustice, etc., on peut très bien passer l'autre à la moulinette, en tout cas on ne le fait pas dans le concret, mais dans notre tête, etc. Quel est l'autre visage que je peux porter par rapport à celui qui m'a offensé? Quelle est mon attitude face au mal? Parce que c'est ça, et face à l'injustice, face à celui qui blesse, quelle va être mon attitude? Alors certes, il faut l'empêcher de continuer à blesser. Je pense à des personnes, évidemment, qui sont des serial killers ou alors des groupes armés, voilà, qui sèment la terreur un peu partout. Évidemment, il faut stopper. Hein, on empêche la personne justement d'agir, parce que en faisant ça, c'est elle-même aussi qu'elle blesse. Non seulement elle blesse d'autres, mais nous-mêmes personnellement, pour ce qui dépend de nous, de dire quel regard j'ai par rapport au mal. Est-ce que j'ai un regard qui est assez, un regard de foi? Et qu'est-ce que dit Jésus après? Parce qu'au fond, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un veut plaider contre toi pour te prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000 pas, fais-en 2 000. Hein, si quelqu'un te demande, eh bien, laisse-lui, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Au fond, Jésus dit, tendre notre joue, c'est montrer un autre visage et rentrer. C'est quoi ce qui est commun à tout ça? C'est rentrer dans une logique de don. De don et de pardon. C'est dommage, parce que même dans la justice française, il n'y a pas ça. C'est dommage que ne soit pas institué un pardon. Alors, il y a la grâce présidentielle, etc. Je pense qu'il doit toujours être plus ou moins d'actualité, mais assez peu employé. Mais qu'il n'y ait pas de possibilité de la part de quelqu'un qui a été offensé de pardonner, que ce pardon-là soit acté en justice. En tout cas, ça n'existe pas, à ma connaissance, dans la loi française. Et c'est bien dommage, parce que c'est ça que dit Jésus. Tu veux... Quelle est la manière de réagir face à ceux qui te font souffrir? Quelle est la manière de réagir face au mal? Est-ce que c'est de demander une réparation et de faire payer l'autre? Parce que l'autre, voilà, il m'a mis de côté, il m'a cassé dans mon entreprise, il m'a complètement cassé ma réputation, alors du coup je vais casser la sienne, je vais le calomnier parce qu'il m'a calomnié. Vous voyez, la vengeance n'est jamais une réponse. Et je veux dire, la vengeance ne guérit jamais l'offense. Jésus dit, qu'est-ce qui va guérir l'offense sinon le pardon ? Montrer un autre visage face au mal. C'est-à-dire comment est-ce qu'on sait qu'on a pardonné ? On sait qu'on a pardonné, il y a deux critères à mon avis qui sont intéressants. On sait qu'on a pardonné, premièrement, quand on pense à celui qui nous a offensés paisiblement, déjà. Que l'image de l'autre dans notre tête, eh bien, ne déchaîne pas en nous toute une colère, voilà, une violence, on a un océan de violence en nous qui est absolument extraordinaire. Et on a un deuxième critère pour savoir si on a pardonné, ça c'est valable pour tout, c'est se réjouir du bien qui arrive à celui qui nous a offensé et s'attrister du mal qui lui arrive. Moi, je trouve que c'est des critères concrets qui font qu'on se dit on a peut-être pardonné. Hein. Mais au fond, c'est ça ce que nous dit Jésus, c'est passer d'un aspect simplement de justice commutative donnant-donnant, ce qu'on appelle, on donne ceci, c'est donnant-donnant, tu m'as fait mal, je te fais mal, tu m'as enlevé la vie, ben, un autre va t'enlever la vie, etc., tu m'as volé, je vais te voler, etc., à une logique de don, et donc à une logique de pardon. Hein, et donc, l'instruction présentée l'autre jour veut dire, justement, c'est plutôt un principe spirituel, un principe intérieur. En même temps, ça va en même temps que dénoncer le mal. C'est là où c'est pas facile. C'est là où il y a la prière. C'est là où il y a demander la grâce au Saint-Esprit. C'est en même temps dénoncer le mal. Je dénonce le mal que l'autre m'a fait. Voilà. Cette attitude-là, si quelqu'un vous a blessé, etc., il y a une justice. On doit porter plainte. C'est-à-dire, pour la personne elle-même, pour l'empêcher de recommencer. Maintenant, pour ce qui est de l'attitude intérieure, le Seigneur invite, au fond, à un apaisement. Derrière ça, c'est voir le mal avec les yeux de Dieu. C'est-à-dire, voir le mal avec une autre dimension, avec une autre manière de faire. Et que si, au fond, je vais dans une attitude d'amour, comme c'est le cas à travers ce qui nous est dit là, si quelqu'un te demande ton manteau, donne-lui aussi ta tunique, etc. Quelqu'un te demande de faire 1000 pas, fais-en 2000. C'est-à-dire, tu vas aller plus loin dans le don de toi-même. Est-ce que le mal te recroqueville sur toi, ou est-ce que, et c'est peut-être les deux à la fois, parce que les deux en nous sont mélangés, ou est-ce que le mal, au fond, au contraire, réveiller en nous peut-être une profondeur supplémentaire. Est-ce que l'offense vient réveiller le conflit? Vous savez, les personnes, les frères avec lesquels j'ai eu le plus de difficultés, ce sont ceux qui m'ont fait le plus avancer. Ce sont ceux qui m'ont fait le plus avancer. Et c'est souvent comme ça. Les personnes avec qui la vie est compliquée, parce qu'il y a des personnes qui sont toxiques. Alors ça, c'est autre chose. Donc ça, vaut mieux s'en éloigner parce que leur personnalité, c'est souvent des personnes assez blessées aussi par ailleurs. Du coup, bah, c'est bien aussi de... il n'est pas interdit d'être intelligent, quoi. Donc, ne prétextons pas une personne avec qui la vie, et en général, c'est le prochain proche. La vie est difficile, les rapports sont difficiles. Pose-toi la question, est-ce que là n'est pas donné une chance pour que tu puisses changer de cœur ? Que tu puisses avoir une autre manière de regarder, d'avoir une autre manière, au fond, de ne pas... C'est là où c'est difficile, parce qu'en nous, et c'est là où ça demande une vraie vie de prière. Sinon, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. C'est d'abord une attitude spirituelle. Hein, on voit bien dans Isaïe, ben voilà, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas mes chemins. Hein, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire que l'homme pense d'une autre manière, mais justement, on rentre progressivement dans la manière, dans le regard que Dieu a sur l'autre, dans un regard de foi. J'accompagne un couple qui est en grande difficulté en ce moment, après 19 ans de mariage, et alors, beaucoup de violence, violence pas physique, mais en tout cas verbale, et voilà. Et donc, du coup, cette personne-là, ce couple-là, je les ai revus tous les deux, alors du coup, ça, je disais même, tellement ça criait, c'était dans mon bureau, ça va, c'était un peu isolé, mais de s'apaiser un peu, parce que quand même, les frères allaient se demander ce qui allait se passer, qui se passait là, que tout le monde criait, etc. Bon, je dis, on se calme. Et puis ensuite, fort de ça, un peu épuisé par cette rencontre, je dis, ben ensuite, on va se voir seul à seul. Et j'ai rencontré le mari, et il me dit, parce que c'est la femme qui crie beaucoup dans ce cas-là, n'y voyez pas un truc, c'est soit les filles qui sont problématiques et les garçons des saints innocents. Mais bon, c'était elle qui était très en colère. Alors c'est intéressant, la colère, en tant que telle, la colère, elle est ni bonne ni mauvaise. On peut avoir de la colère justement pour défendre un bien. On peut justement, quelque chose auquel je tiens, ben je suis en colère parce que ça, tu n'y toucheras pas, parce que c'est quelque chose qui est un vrai bien. On n'a pas non plus à réfréner toutes nos colères. Quand est-ce qu'on s'est mis en colère ? Mais en colère, non pas de la colère de celui qui trépigne, hein, comme un gamin qui veut un jouet, non, de la colère de celui qui aime et qui voit ce qu'il aime partir, et qu'on touche à ceux qu'il aime, aux personnes qu'il aime, ou à ceux qu'il aime et ce qu'il a construit, et qu'il voit comme objectivement un bien. Et donc, c'est une colère qui est au fond voulue. Hein, c'est une colère qui est voulue. Hein. La colère, c'est face à un mal présent, hein, ou alors un mal présent, où, du coup, il y a quelque chose de mauvais, c'est là, ou un bien qui est mis en danger. Voilà, c'est ça la colère. Et donc, lui, ensuite, je le rencontre sur la seule, et il me dit à la fin, on parle parce que c'est vraiment tendu là. Et il me dit, j'essaye d'avoir le regard de Dieu sur ma femme. Comment est-ce que Dieu regarde ma femme ? Et je trouvais ça très juste. Et ça, c'est. Il me dit, j'y travaille, c'est ça qui me fait tenir. Il est resté fidèle, malgré les grandes difficultés, elle aussi. Bon, et ça, ce sera leur grande chance, à mon avis. Mais du coup, je me dis, c'est beau ça de. Est-ce qu'on a un regard simplement psychologique sur ce qui nous coûte, ou est-ce qu'on a un regard de foi ? Est-ce qu'on a un regard spirituel ? Est-ce qu'on demande la grâce ? Parce qu'encore une fois, on est très limité et très vite, on voit que, j'allais dire, chasser le naturel, il revient au galop. Hein, et donc, du coup, on voit que... Mais est-ce que ce contact avec l'autre, est-ce que d'une certaine manière... ne m'aide pas à changer. L'autre avec qui ça me coûte, c'est ce que dit Jésus. Aimez vos ennemis, à la suite du passage. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est qui l'ennemi ? L'ennemi, c'est pas l'ennemi mortel, parce que c'est rare qu'on ait un ennemi mortel qui veuille notre destruction, etc. C'est rarissime, c'est pratiquement bon. Ça se peut, des personnes qui pensent à persécuter les autres, etc. Mais l'ennemi, c'est qui ? C'est celui qui vient toucher mon incapacité d'aimer. C'est celui-là l'ennemi. C'est celui qui m'exaspère, qui me fait grimper au rideau, qui me donne de l'urticaire, qui me... Voilà, s'il pouvait ne pas être là, ce serait mieux. C'est ça l'ennemi. Alors là, tout de suite, il y a une liste formidable qui s'affiche devant nos yeux, n'est-ce pas, de personnes qui font, au fond, des ennemis. Et si on, parce que si on ne comprend pas la parole comme ça, du coup on n'applique jamais l'évangile, parce que ça, c'est le cœur de l'évangile. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et on le voit bien, hein, en Orient, ben voilà, comment les chrétiens d'Orient sont admirables dans, face aux persécutions, et ces hommes qui ont été envoyés à la mort, égorgés vivants, bon voilà, mais et en même temps paisibles, en même temps, c'était à la fois horrible, et à la fois extrêmement... émouvant et de foi et de... voilà, c'est les deux à la fois. C'est, et du coup, je trouve que c'est de prier pour ceux... Et là, on a un cas extrême, évidemment. Hein, mais les cas plus habituels dans nos vies, c'est pas ça. Les cas plus habituels, c'est des gens qui nous agacent, c'est des gens qui nous exaspèrent, c'est des gens qui... Voilà, encore une fois, ils seraient pas là, ce serait mieux. Ils seraient pas là, ce serait mieux. C'est l'ennemi. Et Jésus dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire, ne réponds pas au mal par le mal, sinon tu ne t'en sortiras jamais. Ou s'il faut répondre par le mal, parce que vous pouvez me poser la question, mais si quelqu'un est violent et arrive comme ça, une mitraillette dans Paris, et commence à arroser Ubi et Torbi, bon, on va le laisser faire, on va l'aimer simplement. Non, je veux dire, c'est aussi arrêter celui qui fait le mal, mais et parfois peut-être en usant de la violence, mais cette violence là qu'on utilise, à un moment donné elle aura une fin. Si on est obligé d'utiliser la violence, mais c'est des cas relativement rarissimes, hein, pour garder l'ordre et pour empêcher de nuire quelqu'un, hein, et se faire du mal et faire du mal de l'autre, cet usage de la violence, dans tous les cas, il faut savoir quand est-ce qu'on va y mettre fin. Ça peut pas être la violence pour la violence au même degré que l'autre est violent. Jamais. C'est pas du tout, ni la manière, c'est contre-productif. C'est contre-productif. On le sait bien, tous les conflits ne sont pas d'abord des victoires militaires, ce sont d'abord des victoires diplomatiques, des victoires politiques. C'est que là où ils se résolvent. Et pour nous, la paix n'est pas simplement un accord entre deux parties, voilà, qui ont négocié vaille que vaille une reddition des armes et un cessez-le-feu. La paix pour nous chrétiens, c'est la personne même du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a un regard nouveau. Le chrétien établit un regard nouveau face au mal. Il y a quelque chose qui est complètement autre, qui est complètement différent de l'ancienne alliance. C'est complètement autre. Donc, montre un autre visage face à celui qui t'offense. Face à celui qui t'offense, est-ce que tu as pensé à prier pour lui ? Est-ce face à celui qui te blesse, est-ce que tu t'es posé la question peut-être de lui répondre, de lui dire de façon claire, et Jésus, vous pouvez relire le procès de Jésus, là, ça, c'est d'actualité avec l'approche de la Pâque, mais le procès du Christ, c'est ça, il pose aussi des questions, il réagit, etc., donc c'est pas une passivité, en tout cas, il ne me semblerait pas que ce soit juste de voir le fait de tendre l'autre joue, de montrer un autre regard, comme une passivité toute simple face au mal. Mais c'est une manière active, mais intérieure, d'abord. Si elle doit aussi se manifester à l'extérieur par des moyens de contention et de répression pour X raisons, mais d'abord intérieurement. Vous savez, pendant 10 ans, j'ai été aumônier de prison en Argentine, en Amérique latine. Et j'ai, comme aumônier de prison, on est face à des personnes qui ont fait le mal, et fait le mal gravement. Et je me dis, j'ai toujours prié, mais ça n'a jamais été exaucé, certainement par manque de prière et manque de foi, mais j'aurais souhaité que l'agresseur et l'agressé se rencontrent. Et pour que chacun redécouvre l'autre comme une personne. Alors évidemment, quand vous avez perdu, moi j'ai eu contact avec des victimes ou des parents de victimes, dans mon ministère d'aumônier de prison. Mais quand ils vous racontent les choses, et que vous connaissez par ailleurs les prisonniers qui sont encore en train de purger leur peine, c'est sûr que ça vous entre tuer votre vu voir votre propre père tué sous vos yeux, avoir été violenté, avoir etc. Une personne qui a été détruite, qui bon voilà, qui a fait ensuite des tentatives de suicide suite à une agression, suite à un abus. Bon, vous voyez les dégâts du mal. Vous les voyez, ça très clairement. Et je comprends très bien, et je comprends, moi j'ai proposé à une personne, je me souviens, je lui dis, mais est-ce que vous accepteriez même de rencontrer quelqu'un, la personne qui vous a agressé, est-ce que vous accepteriez de la rencontrer? Et j'ai eu un cas où un prisonnier a écrit à la fille de celui qui l'avait tué, et il avait écrit et il a demandé pardon. Par écrit. Alors que les prisonniers, c'est que des gens extrêmement marginaux. Ils viennent des bidonvilles à 95%. Et donc c'était. Et la personne, je lui ai remis la lettre. Et plusieurs fois, je suis revenu à la charge. Et puis, bon, je finis par quitter l'Argentine. Mais jamais la lettre a été ouverte. Même lire une lettre, c'était déjà une forme de contact. Hein? Et pourtant, une personne. Croyante, pratiquante, je veux dire, en même temps, voilà, je suis personne pour juger, hein, mais quand il vous est donné le meilleur remède au mal, c'est le bien. Soyez vainqueur, dit l'apôtre saint Paul, soyez vainqueur du mal par le bien. C'est l'amour, c'est la réponse, c'est ça être chrétien, c'est ça la vie chrétienne profondément. C'est pas d'abord un code de morale, un code de conduite, extérieur, c'est d'abord face à celui qui commet le mal, eh bien, je prie pour lui, je le bénis, comme dit, je lui donne le double de ce qu'il me demande, hein, de, je ceux qui vous maltraitent, priez pour lui, bénissez-le, etc. Aimez-les, aimez vos ennemis. C'est là où on voit que sans la grâce, c'est impossible. Sans un chou, c'est impossible. C'est pas notre simple générosité qui va venir à bout du mal et des répercussions du mal en nous. C'est une profonde intimité avec le Seigneur. C'est une profonde vie de foi. C'est un regard de foi face à celui qui m'a agressé ou celui qui m'a fait du mal, du tort, alors à différents niveaux, hein, mais ça peut être en entreprise, puisque vous êtes pour la plupart dans le monde du travail, etc. Ben c'est sûr que l'entreprise est un lieu de conflit. L'entreprise est un lieu où on subit parfois l'injustice. Un lieu où on s'en prend à la réputation de l'autre. Un lieu où parfois même on est dévalorisé. Bon, il y a aussi l'entreprise qui construit, l'entreprise qui épanouit, etc. Ça existe aussi. Mais ne soyez pas surpris de rencontrer le mal. Ne soyez pas surpris de... Parce que quand on a eu une forme d'enfance ou de jeunesse un peu préservée, du coup on est comme un peu surpris. On se dit, mais on ne pensait pas que ça pouvait exister. J'ai beaucoup étudié, puis pour rencontrer ça, finalement, dans ce monde professionnel, bah oui, c'est la réalité. Et nous, comme chrétiens, c'est important d'embrasser la réalité telle qu'elle se présente. On n'est pas là pour, dans un monde de bisounours, dans un monde... Non, c'est cette réalité-là que le Seigneur nous a envoyé. C'est vers cette réalité-là qu'il nous a envoyé. C'est là qu'il nous a envoyé. Donc soyons tout à fait... Et c'est là qu'on a un rôle à jouer. Je me souviens d'un autre cas où je n'étais pas présent, mais une jeune fille qui avait été renversée par une camionnette à Paris. Et la camionnette était passée dessus, elle a eu des mois et des mois d'hôpitaux, des opérations sans fin. Bon. Et puis finalement, le type a été arrêté, etc. Il se trouvait qu'il était alcoolisé à 10h du matin. Il y a eu un procès. Les conséquences de cet accident sur cette jeune fille sont très importantes parce qu'elle ne sait même pas si elle pourra avoir d'enfants, par exemple. Elle s'est mariée, le mari est au courant de tout, etc. Mais il n'exclut pas, en tout cas, la possibilité, tellement elle a été... Ben, une camionnette vous passe dessus, c'est rare qu'on s'en sort complètement. C'est déjà un miracle qu'elle soit encore de ce monde. Et puis à la fin du procès, le type a été condamné. Je pense à la prison avec sursis, il me semble bien, ou peut-être ou la prison ferme, mais. Et puis les parents de la jeune fille, d'une famille profondément chrétienne, sont allés le voir ensuite. Et lui dit, on espère que vous vous en sortirez. On espère que vous allez vous en sortir, que vous allez sortir de ce passage-là. Ça, c'est être chrétien. Hein? Ça, c'est être chrétien. Bénissez ceux qui vous ont fait du mal. Et non pas refaire appel encore ou redemander encore une peine encore plus forte, etc. On voit beaucoup de procès, c'est des formes de vengeance. Mais est-ce que je revois l'autre ? Vous voyez, la perte de la foi chrétienne dans nos sociétés occidentales fait que la justice se transforme en vengeance. Alors, codifié, certes, et tant mieux. Mais où est la place pour le pardon ? Nos amis, je ne sais plus, un reportage en Angleterre, en tout cas, dans une commune, je ne me souviens plus laquelle, il y avait une instance, les anglo-saxons sont plus détendus que nous de ce côté-là. Ils sont plus, l'ambiance anglo-saxonne, c'est plus cool, c'est plus. Voilà. Et du coup, ils ont dit, voilà, surtout pour un mineur qui est pris en flagrant délit de vol, par exemple, bah, du coup, au lieu d'envoyer tout de suite en prison, ils ont dit, on va réunir les personnes volées, on va réunir les personnes représentantes de la commune, etc., et le délinquant, le primo-délinquant qui se trouve là. Et au fond, arriver à ce que déjà il y ait une rencontre entre tout le monde. Et puis, arriver à ce que ce jeune puisse demander pardon. Et puisse écouter un pardon. Ben, du coup, ça, ils ont vu quand même le taux de délinquance, en tout cas de juvénile, des mineurs, diminuer de façon notable. Parce que quand vous voyez quelqu'un à qui vous avez fait du tort, et qui vous donne son pardon, là c'est du vol, là. On ne parle pas de choses trop graves comme tout ce qui est atteinte à la personne physique, etc. Mais le vol, c'est déjà pas mal, mais il vous donne son pardon, eh bien, ça c'est l'évangile. Et la disparition progressive de l'espérance chrétienne dans nos sociétés fait que c'est la disparition progressive du pardon dans nos sociétés. Et du coup c'est œil pour œil, dent pour dent, je vais te faire payer. Parce que notre nature humaine, elle est comme ça. Il nous faut la grâce pour nous changer. Hein, il nous faut la grâce pour nous changer. Hein, donc d'être vainqueur du bien par le mal, c'est vraiment rentrer dans une logique. Ne pas faire que le pardonner, c'est être vainqueur du bien, du mal par le bien, justement. C'est ça, pardonner. C'est ne pas me laisser arrêter par l'offense. Que l'amour soit plus fort que l'offense. Demander au moins la grâce. Au moins de le souhaiter, au moins de le désirer, même si on a du mal à le vivre. Ne pas laisser simplement l'homme à l'état brut, ou l'homme charnel, comme dit la Bible, l'homme à l'état brut, voilà, que tu me frappes, je te frappe, tu me voles, je te vole, etc. Non, c'est l'essence du pardon, elle est là, c'est que accorder son pardon à quelqu'un, c'est aussi renoncer à son droit, parfois, de lui faire payer ses torts. Ça va très loin. Hein, je refuse de porter plainte pour dans certains cas, on peut très bien dire dans les cas pas trop graves, mais on a comme offensé des droits sur l'autre. Le pardon, c'est renoncer à exercer ce droit sur l'autre. Quand l'offense a été reconnue, bon, là on parle de choses assez, je vais dire, facile, entre guillemets, entre l'accident de voiture, le vol, des personnes qui sont en prison, qui ont commis des crimes et des délits. Mais la difficulté, c'est quand l'autre ne reconnaît pas l'offense. Qu'est-ce qui se passe ? Quand l'autre ne reconnaît pas l'offense, l'autre ne voit pas où est le problème. Non, c'est toi qui es le problème. Ça arrive souvent, c'est des manipulateurs, par exemple. Il y a personne qui agit beaucoup par manipulation, etc. Le problème, c'est toi, finalement. Le pardon n'est pas forcément la réconciliation. C'est différent. Le pardon, c'est d'abord, ça vient de soi-même. La réconciliation, ça demande d'être au moins deux. Mais au moins, intérieurement, je peux pardonner à la personne, même si la personne, pour la seule partie de sa vie, est aveuglée, ne voit pas clair. Je peux prier pour elle, je peux la bénir. Ou une personne qui est décédée, voilà, qu'on a, voilà, des personnes défuntes qui nous ont pu nous faire du mal, ben, voilà, je peux au moins faire ce travail intérieur, aider de la grâce du Seigneur. Et puis aussi, ne pas sous-estimer l'importance dans des affrontements, il n'y en a pas beaucoup, pas assez, de la médiation. De la médiation. L'année dernière, peut-être certains d'entre vous sont venus au week-end sur les conflits dans le monde du travail, on l'avait eu à l'abbaye d'Onscan, et il y avait celle qui était bâtonnier du barreau de Paris, Madame Ferralschul, c'est de mémoire, qui a mis en place l'école de la médiation. La médiation, et donc qui est même reconnue au plan légal, la médiation, je trouve ça très évangélique, c'est au fond, au lieu, parce que dans un procès, il y a un perdant et un gagnant. Dans la médiation, il y a deux gagnants. Alors, pour des choses matérielles, au plan commercial souvent, hein, c'est pas au plan pénal, mais au plan commercial. Quelqu'un n'a pas respecté des délais, etc. Du coup, je trouve la médiation, c'est de dire, se faire rencontrer des gens, que les personnes se parlent, de dire est-ce qu'il y a autre chose qui vous intéresse, par exemple, dans une copropriété. On va prendre un exemple, là, quand une copropriété, je peux très bien être intéressé par un petit bout sous l'escalier, surtout à Paris, chaque mètre carré vaut une fortune. Donc, du coup, je te laisserai le droit de passage de rentrer ton vélo dans la cour commune. Je sais pas quoi, mais du coup, voilà, on essaie de... La médiation, c'est ça. Alors, si je vais au procès, ben, le juge fait son boulot de juge, ben, il y en a un qui dit oui, lui, il a le droit, lui, il n'a pas le droit, du coup, perdant, gagne. Ben, oui, développer une culture de la médiation. Développer une culture où on puisse se rencontrer face à l'offense, ou quand il y a un conflit. Le pire dans le conflit, c'est le manque de parole. Le non-dit. Alors, nous, comme chrétiens, on a à faire quelque chose de très fort avec cet exemple de Jésus lui-même, hein, qui dit, au fond, rentrer dans une attitude de don, rentrer dans une attitude de montrer un autre regard, un autre visage sur le mal et l'offense. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'évidemment, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Oui. Alors, qu'on ne veut pas s'éloigner d'une... Comme par exemple dans le monde professionnel, pareil. Et gérer une personnalité toxique. Ben, déjà, premièrement, découvrir que la personne est toxique. Ça veut dire quoi une personne... Non, il faut se faire aussi... C'est important, parce qu'il y a des personnes... Qu'est-ce qu'on appelle une personne toxique? C'est vraiment... Mais c'est de l'ordre de la pathologie, parfois. Hein, mais attention, de ne pas appeler toxique toute personne avec qui ça me coûte de vivre. Parce que ce serait aussi facile. De toute façon, c'est un malade. Ou alors, tel frère, il n'a pas la vocation. Ben, ça me coûte de vie, mais s'il n'était pas là, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça, c'est pas en place. Bon. Mais il y a des personnes, objectivement, qui sont très problématiques et qui ont caractérielles. Éviter distancer les rapports, si c'est possible. Maintenant, si c'est ton collègue de bureau à côté, ou un parent, ça peut être aussi un parent, ou un frère, une sœur, etc. Bon, voilà, c'est... Ne pas se laisser... Déjà, tout le travail, ce que j'ai dit là, ce que dit Jésus, de prier, de l'aimer, parce qu'au fond, une personne n'est pas toxique, elle n'est pas née toxique. C'est progressivement les épreuves de la vie, c'est qu'elle a cru comprendre, au fond, que d'être comme ça... ça la rendrait plus forte, elle est plus forte par rapport aux autres. C'est toujours une manière de se défendre. Et parfois, c'est des maladies aussi, il ne faut pas non plus qu'il y ait des pathologies. Donc, essayer de, et de ne plus se laisser atteindre. Vous voyez, de plus se laisser atteindre, oui. Ah, l'indifférence par rapport à une personne toxique, tu dis, ou... Voilà, maintenant la vie tourne, bon... bon. Alors... Non, bah, c'est pas très chrétien, bon, on fait ce qu'on peut maintenant. Si c'est toi qui le dis, je sais pas, mais oui, oui. Bah, c'est une... Pendant qu'un cas qui est plus habituel pour vous, une relation amoureuse qui termine mal. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être vécu, certains d'entre vous. Bon. Bon, et l'autre nous a fait vraiment souffrir. Parce que il manque, parce qu'on a peut-être été trop loin, parce que la manière dont ça s'est passé, parce qu'il n'y a pas eu de parole dite. Hein, ça, c'est le pire du tout. On ne sait pas pourquoi l'autre est parti. Voilà. Du coup, il y a une vraie souffrance, parce que vous êtes engagé voilà, très fort avec l'autre. Bon. Forcément, vous lui en voulez, au début en tout cas. C'est une incompréhension, une grande tristesse, un grand désarroi, ça, une souffrance. Maintenant, évidemment, ce qui est conseillé, c'est si vous revoyez la personne tous les jours, vous évertuez vous faites exprès de la revoir, bah, vous remettez le doigt dans la plaie et puis vous triturez, ça, c'est pas bon. Qu'il y ait une certaine distance avec l'autre, ça me paraît un peu le bon sens, dans un cas comme ça. Mais que ce ne soit pas. Je ne vais pas le critiquer, je ne vais pas le calomnier, ou la calomnier, la critiquer, je ne vais pas lui faire payer le mal qu'il ou elle m'a fait subir. Vous voyez, c'est plutôt ça. C'est, maintenant qu'il y a une distance, la vie tourne aussi, les personnes partent, et puis les groupes d'amis se défont. Surtout, ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y ait une haine entretenue, vraiment qu'il y ait une dureté de cœur. Parce que ça, c'est pas chrétien. Qui est une dureté de cœur. Maintenant, personne ne vous demande d'entretenir une relation même d'amitié ou de voilà. Forcément, il y aura une distance, une forme progressivement d'indifférence, et puis peut-être vous vous reverrez 10, 15 ans, 20 ans après, et puis bon voilà. Puis, mais oui, alors, moi je crois que c'est bien. C'est vrai. Alors. Tout le monde ne part pas en vacances avec son chef non plus, donc malheureusement, mais c'est vrai, il y a des entreprises qui mettent, qui organisent des vacances comme ça pour que font jouer du théâtre, etc. Vous avez connu ça, des trucs comme ça, font jouer du théâtre pour que l'autre se retrouve dans une autre circonstance. C'est vrai que les circonstances, bon, le rapport hiérarchique. Est une circonstance qui potentiellement ouvre la porte au conflit. D'autant plus que le N plus 1, il a un N plus 2, le N plus 1 aussi, et avec des exigences de celui et de personnes qui voilà, vont lui demander de rendre des comptes, etc. Donc oui, potentiellement, il y a. Si vous l'auriez vu, il n'aurait été pas votre supérieur hiérarchique, peut-être vous seriez les meilleurs amis du monde. Si vous étiez proche d'un âge ou je ne sais pas quoi. C'est vrai qu'il y a des circonstances qui font que les relations sont plus tendues. Maintenant, voilà, c'est la question de la médiation. Juste, la médiation, demander l'avis d'une tierce personne, oui, mais une tierce personne qui est formée. C'est pas la bonne copine, le bon copain, c'est une personne qui a de l'expérience là-dedans. Ça ne s'improvise pas, la médiation. Ça ne s'improvise pas. C'est pas simplement un tiers, du coup, qui va prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et ça, on le voit malheureusement, et qui peut faire plus de tort que de bien, quoi. Donc, mais il y a des personnes qui sont conflictuelles, même en vacances, par exemple. Ça peut aussi arriver. Donc, je trouve que c'est important d'avoir un regard parfois de compassion aussi, face à ceux avec qui on vit et qui nous. Bien souvent, les côtés difficiles de nos personnalités, c'est bien souvent des blessures qui sont à l'origine Et du coup, on a développé une manière d'être pour nous protéger, nous blinder et faire que l'autre, mette l'autre à distance et ne plus souffrir. À 80%, ou alors voilà, c'est ça. C'est, ou alors se vouloir se mettre au centre, ou alors voilà, se vouloir se mettre en valeur, parce que voilà, j'ai peur qu'on m'oublie, ou alors j'ai peur de disparaître, ou alors au contraire, vouloir l'affrontement parce que c'est dans l'affrontement que j'existe. Bon, c'est tout des modes de compensation psychologique qui au fond se mettent en place. Et qui font que. Donc, c'est important de dire, est-ce qu'il y a. D'avoir un regard de foi aussi, hein, pas simplement qu'un regard psychologique, c'est un regard de foi, de dire, mais aussi un regard parfois de compassion, de dire, cette personne-là, quand vous confessez, des personnes compliquées, déjà, moi je les vois venir tout de suite, elles poussent la porte, je dis, oula, là, ça va être compliqué. Ça, donc là, du coup, ça va être du lourd. Là, prépare-toi, ça va, accroche-toi, là, ça va débrouiller. De fait, je ne suis pas déçu. Mais quand vous écoutez les personnes, c'est très touchant. Parce qu'elles savent qu'elles savent compliquer, elles sont compliquées. Elles le savent. Elles savent que c'est, leur vie, leur manière d'être n'est pas simple. Et du coup, comme disait quelqu'un, les autres vivent 8 heures par jour avec moi. Moi, je vis 24 heures sur 24 avec moi. Mais quelqu'un qui vous dit ça, qu'est-ce que vous voulez dire? On ne se met jamais dans la peau de celui, justement, de celui ou de celle qui est compliqué, qui est caractériel, voilà, qui est dans cette attitude. Et puis, attention, et puis après les bons et les gentils, nous aussi, on peut être dans l'attitude d'eux. On peut être aussi caractériel, impatient, on peut être difficile à vivre, dans certaines circonstances. On n'est pas assez miséricordieux les uns envers les autres. Pas assez de compassion. Parfois, on est trop dur, trop d'exigence, peut-être, parce qu'on le supprime. Mais justement, le fait de la vie de prière, je trouve que c'est ça qui aide à s'apaiser et à remettre les choses dans leur vraie dimension, quoi. Donc, de ne pas en rester qu'un niveau psychologique. Vous voyez, on sort d'une crise par le haut. Si on reste qu'au niveau psychologique, bah, c'est deux psychologies, comme dans le truc du couple, voilà. C'est deux psychologies qui s'affrontent. Toi, tu m'as dit ça. En plus, ils s'envoyaient des mails incendiaires. Donc, je dis, arrêtez la communication écrite, parce que là, c'est... On peut relire, en plus on ressassait ce qu'a dit l'autre, on lui répond point par point, etc. Bon. Donc, ça faut arrêter ça. Et donc du coup, je crois que c'est... Et là, de ce point de vue-là, le silence, souvent, est la meilleure. Ne pas répondre, ne répond pas aux méchants, hein, c'est ce qu'il dit à un moment donné dans le texte, hein, dans l'évangile. Hein, mais voilà, c'est... Je pense que le Seigneur nous demande d'avoir un regard qui est différent, quoi, qui est autre, qui... D'autres questions? Ah, les conflits des chrétiens d'Orient, oui, c'est un autre cadre, oui. C'est en conflit, oui. Oui, une intervention armée. Oui, tout à fait. Bon, par rapport à ça, ça j'ai un peu évoqué, c'est de dire qu'une personne... qui fait le mal, comme on voit en Orient en ce moment par rapport aux chrétiens, et pas que les chrétiens, beaucoup de musulmans souffrent aussi, hein, n'oublions pas, les millions de déplacés, 90% c'est des musulmans, et donc du coup, et le Vatican, à juste titre, dit, il y a parfois une guerre qui vient stopper l'agresseur injuste, hein, un agresseur injuste, voilà, à un moment donné, il faut le stopper, mais... En même temps, ça fait partie aussi de l'évangile. On ne peut pas ne laisser aller sans fin le mal se répandre. La communauté internationale a... Mais voilà, ça c'est une partie mais qui peut s'appliquer pour nous de façon plus... Il y a des personnes à qui il faut leur dire de leur mettre des limites pour que leur nocivité ou leur agressivité, leur violence, etc., les canaliser pour que les contenir... c'est souvent par des peines de prison que ça arrive, pour éviter que ça reproduise, pour protéger l'autre. Ça, c'est pas quelque chose, à mon avis, qui est choquant. Je crois que c'est un peu le bon sens, quoi.